Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors dans ce podcast, vous le savez, on parle de notre quotidien, du quotidien des agents du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui protègent, qui aident, qui orientent, qui réglementent des moments importants de notre existence et qui sont au service de nos concitoyens avec des témoignages, des histoires, des actions de proximité qui font vraiment vivre ce beau et vif service public. Alors assez souvent, dans nos communications, on parle de la nationalité française et aujourd'hui c'est aussi l'objet de ce podcast, mais on va changer un petit peu d'angle. Souvent on va tracer le parcours de naturalisés français, c'est-à-dire d'étrangers qui à un moment ont fait le choix de devenir français. D'ailleurs, je pense que vous en connaissez tous. Et il n'y a pas que des sportifs. Il y a des grands chanteurs, il y a des grands acteurs, de Gainsbourg à Uderzo, en passant par Coluche et plein d'autres. Mais ce n'est pas l'angle que l'on a choisi pour ce podcast. Moi, ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous parler des agents de l'État, fonctionnaires, contractuels et autres, qui font vivre ce service public, qui travaillent dans ce domaine de la nationalité, et qui accompagnent les nouveaux Français, qui écoutent leur récit, leur parcours, et qui vont aussi avoir un travail dans l'ombre, dans le bureau des naturalisations, pour dépiauter un certain nombre de dossiers. Mais il n'y a pas que des dossiers, il y a des êtres humains, il y a des histoires derrière tout cela, et c'est de ça dont on va parler avec Frédéric et Nadia. Alors, merci déjà à tous les deux de venir. Vous venez des quatre coins, mais vous êtes que deux, donc des deux coins de France, Montpellier et Nantes. Alors peut-être, Frédéric, je vais laisser te présenter, nous expliquer comment tu en es venu à travailler sur les questions de nationalité.
Alors, je suis actuellement effectivement sous-directeur de l'accès à la nationalité française, qui est une des sous-directions de la Direction générale des étrangers en France. Et avant ce poste, j'ai un parcours classique de sous-préfet territorial.
Ça peut être classique, un parcours de sous-préfet ? Tu es passé par quel lieu ?
Classique en ce sens que j'ai occupé les différentes fonctions confiées à un sous-préfet, directeur de cabinet, sous-préfet d'arrondissement ou secrétaire général.
Et pour le coup, des quatre coins de la France.
Et des quatre coins de la France, de l'Est au centre, en passant par le Sud-Est, le Sud-Ouest.
Et alors, aujourd'hui, tu t'occupes de la nationalité ? Ça veut dire quoi, la nationalité ?
Alors, c'est un vaste, vaste sujet. Aujourd'hui, je m'occupe effectivement de l'accès à la nationalité française pour les procédures qui sont gérées par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la grande majorité des demandes. On distingue deux procédures différentes, les naturalisations par décret, et les procédures dites déclaratives par mariage ou lorsque l'on est ascendant de Français ou frère ou sœur de Français.
C'est très juridique comme travail ?
Alors c'est un poste qui est très intéressant parce qu'il est à la fois très juridique, il faut construire cette politique publique, définir les normes, les règles d'accès, mais il est également très opérationnel puisque cette sous-direction, elle anime tout un réseau de plateformes départementales et interdépartementales qui instruisent les dossiers, et puis on est en prise directe avec les parcours de vie des gens qui souhaitent accéder à la nationalité française.
Est-ce que dans notre histoire, cette thématique a toujours été du ressort du ministère de l'Intérieur ?
Alors ça a fluctué au fil du temps. Ça a été très longtemps une sous-direction du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Puis elle est passée à l'époque de la création du secrétariat d'État à l'immigration sous le gérant de ce secrétariat d'État. Puis elle a rejoint le ministère de l'Intérieur via la DGEF.
Est-ce que tu travailles aussi avec le ministère des Affaires étrangères ?
Alors, c'est une sous-direction qui travaille dans un vaste réseau partenarial avec les plateformes, je l'évoquais, mais également avec le ministère des Affaires étrangères, puisque une de ces sous-directions, le service central d'état civil, qui est également basé à Nantes, et le service qui va reconstituer tous les actes d'état civil, les livrets de famille des futurs Français, qui va gérer ce registre d'état civil. C'est l'officier d'état civil de ces futurs Français.
Ben merci beaucoup Frédéric. Et je me tourne maintenant vers Nadia. Merci beaucoup Nadia.
Avec plaisir.
Tu travailles à la plateforme interdépartementale de l'Hérault à Montpellier.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, ce que tu fais au quotidien et comment tu as été amenée à travailler sur ces questions ? Et qu'est-ce qu'on fait dans cette plateforme d'ailleurs ?
Beaucoup de questions.
Voilà, tu les prends dans l'ordre que tu veux.
D'où je viens ? Alors, je suis toulousaine à la base. Après avoir passé un certain temps dans le secteur privé, j'ai dû partir de Toulouse, en fait, et rejoindre mon mari qui travaillait, en fait, qui était détaché à la Défense à Strasbourg. Donc, on a vécu très longtemps à Strasbourg, où je suis rentrée à ce moment-là dans la fonction publique. J'étais en poste au cabinet du préfet.
Waouh!
Et puis ensuite, on a décidé de descendre. Et puis là, on a quitté Strasbourg, malheureusement. Et puis, on est venu s'installer à Montpellier. Et j'ai été affectée à la DMI, donc Direction des Migrations et de l'Intégration, à Montpellier. Et donc, au bureau de l'admission au séjour. Jusqu'en 2019. Et en 2019, en fait, une chef qui avait quitté le séjour, qui avait travaillé avec moi au séjour, m'a demandé de venir la rejoindre au sein de la plateforme de la naturalisation. Et donc, voilà, j'ai accepté, parce que c'est vrai que c'est des missions qui m'intéressent depuis longtemps.
On ne s'ennuie pas ?
Jamais. On ne s'ennuie jamais.
Est-ce qu'on sait, quand on arrive au travail le matin, ce qu'on va faire, ou est-ce qu'il y a de l'imprévu ? C'est quoi une journée à la plateforme ? Dites-nous.
C'est beaucoup. Alors, c'est le temps qui passe et qu'on ne voit pas passer.
C'est
beaucoup
de
travail.
Oui.
Des dossiers à traiter, beaucoup de pré-instructions, hein, puisqu'on va recevoir des personnes physiques. Et avant ça, il faut quand même préparer des dossiers. Hein. Il faut vraiment un examen poussé. Et puis, c'est aussi un travail collectif avec des collègues sur une plateforme. Donc, un échange. Voilà, un échange de tous les jours.
Alors, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est un travail sur dossier administratif ou c'est un travail vraiment sur les personnes, les individus ? Est-ce que c'est de l'humain ou de l'administratif ?
C'est les deux. C'est les deux parce qu'en fait, c'est de l'humain puisqu'on a affaire à des personnes physiques hein, qu'on reçoit au cours de l'entretien. Mais avant ça, c'est aussi l'examen des dossiers papier, donc des documents que les demandeurs, les postulants ont produits. Les documents administratifs, parce qu'il y a des enquêtes, hein, bien sûr, hein, avant de recevoir les personnes, il y a un examen poussé hein, de chaque dossier. Donc voilà, administratif, et puis un examen administratif des documents, et puis ensuite, le jour de l'entretien, un échange humain. Avec les postulants.
Alors pourquoi on choisit de travailler sur ces questions ? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le fait de travailler sur ces dossiers et sur ces personnes qui veulent être françaises ?
Au moment des attentats en 2015, j'ai tellement été, comme la plupart des personnes, choquées et traumatisées même, que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose à mon niveau. Et je me suis posé la question de notre responsabilité par rapport à ce qui se passait chacun de nous. Et moi, à mon niveau, donc j'ai voulu intégrer. Donc il y avait un dispositif, je pense que c'était, je ne sais plus quel ministère l'avait lancé au début, mais c'était un dispositif pour, notamment au niveau des écoles, voilà, c'était au moment où les enfants, justement, en 2015, certains enfants avaient refusé de faire la minute de silence. J'avais voulu intégrer le dispositif pour être formatrice, en tout cas référente laïcité. Le hasard a fait que je le suis devenue plus tard, puisque je suis actuellement habilitée valeurs de la République et laïcité, et que j'interviens, donc... On a eu une journée de formation le 21 avril, donc on a fait une journée de sensibilisation auprès de mes collègues. Et ça s'est très bien passé et j'espère que ça va continuer.
Et ça te sert cette spécialité au quotidien dans ton travail ?
Oui, c'est très important parce qu'en fait, c'est vrai que comme on évalue le niveau d'intégration, enfin le niveau d'adhésion des postulants aux valeurs de la République, ce qui est important quand même, c'est de savoir soi-même ce à quoi on doit s'attendre. Donc connaître les valeurs, savoir ce qu'est la laïcité, ce qu'on attend d'un candidat qui doit adhérer à ce principe. Voilà, donc c'est très important. Et c'est vrai que souvent, des collègues avaient du mal à se positionner par rapport à ce principe. Et ça a permis de mettre au clair les choses. Il fallait qu'on le fasse, en tout cas. Il fallait que ça se fasse. Ça a été une bonne chose.
comment on travaille au niveau national sur ces sujets-là ?
Alors justement, c'est ce qui nous a amené à créer un réseau de référents et référentes assimilation au sein de chaque plateforme qui sont là pour épauler, aider à la fois les nouveaux arrivants, mais également les agents plus expérimentés dans le cadre de la conduite de l'entretien. Donc pour ce faire, on les a outillés, ces référents. On a créé un guide, mais on a créé également tout un parcours de formation, dont celle que vient d'évoquer la collègue. Et puis on a développé aussi des partenariats avec notamment nos collègues de l'UCLED DGSI sur les techniques d'entretien. Parce qu'il faut mettre, les gens arrivent très stressés, il faut les mettre à l'aise. Il faut réussir à rentrer dans leur quotidien. Et donc, on a développé tout un parcours de formation avec une méthodologie à la fois de préparation, mais également de conduite de l'entretien.
Il faut arriver à être 100% sûr qu'on écarte certains profils et en même temps être très bienveillant dans l'approche pour les postulants qui méritent d'être français.
C'est toute la difficulté de notre métier parce qu'on est effectivement face à un traitement de masse. Hein. C'est un process industriel. Hein. On est 100 000 demandes à peu près par an. Et puis, il y a quelques pourcents de gens qu'il faut écarter. Et là, il faut être en veille, détecter les signaux faibles et prendre les bonnes décisions tout en faisant avancer vite les autres dossiers.
Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre un nouveau dossier ? Tu l'as un petit peu dit, on commence par un travail sur les pièces, sur le volet administratif. Puis après, j'imagine qu'on prépare cet entretien qui est le moment fort.
Tout à fait. Alors, sur un examen des pièces qui ont été produites. Et puis, alors, toujours pareil, hein, c'est vraiment donc des documents administratifs. Le CERFA qui a été produit par le demandeur. Hein, donc, le CERFA qui est le formulaire papier. Là, pour l'instant, pour ce qui est de la procédure. Parce qu'en fait, les personnes maintenant peuvent déposer aussi de façon dématérialisée.
Bien sûr.
Mais on a encore des dossiers papier, donc on traite aussi ça, donc en double flux, quoi. Voilà. On regarde le parcours des demandeurs, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont un parcours abouti, un parcours d'insertion abouti ?
Ça veut dire des formations, une maîtrise de la langue ?
Ça veut dire, alors une maîtrise à la langue, ça c'est essentiel hein, pour ce qui est de la procédure par décret et également pour ce qui est de la procédure déclarative, à l'exception de celle par ascendant, hein, donc juste les personnes d'un certain âge qui déposent leur demande en tant que grand ascendant de français sont exemptés, enfin, voilà, ils ne sont pas obligés d'avoir une connaissance très poussée de la langue. Mais pour ce qui est des autres candidats, voilà, c'est primordial, donc la langue, le parcours d'insertion, voilà, profession, et puis surtout, est-ce qu'ils sont en adéquation avec les valeurs et les principes de la République ?
Alors ça, on va y revenir parce que c'est important. Toi, Frédéric, pour toi aujourd'hui, si tu veux dire vraiment les caractéristiques de ce qui est au cœur du fait de devenir français, tu dirais que c'est quoi ? La langue ? Le parcours d'insertion, ou c'est un peu de tout ?
Alors, c'est effectivement un mixte de tout ce que tu viens d'évoquer. La langue est un élément important, hein. C'est un facteur d'intégration, c'est un facteur aussi primordial pour l'insertion professionnelle. On regarde également cette insertion professionnelle et puis on va examiner avec le postulant au cours de l'entretien quelles sont ses motivations pour rejoindre notre communauté nationale.
Donc les motivations, c'est souvent lesquelles on... Ça dépend de chacun
Ça dépend de chacun, mais on le voit à chaque fois, c'est l'aboutissement d'un parcours de vie qui a pu démarrer très jeune et d'un parcours d'intégration réussi. Mmh. Et donc, la phase ultime pour ces postulants, bah, c'est de se sentir pleinement citoyen français et de faire donc cette demande.
Est-ce qu'on est formé quand on va travailler sur ces plateformes ou est-ce que c'est au fur et à mesure qu'on monte en expérience ?
Alors, il y a bien évidemment des formations de base pour les nouveaux agents, des formations continues, mais c'est un métier d'expérience. C'est au fil des entretiens que tous ces agents en plateforme acquièrent une forme de technicité pour justement bien évaluer ces parcours de vie, à l'instar de ce que font aussi, par exemple, nos collègues de l'OFPRA ou de l'OFI pour l'accueil des réfugiés ou des primo-arrivants.
Il y a à peu près 80 000 naturalisés chaque année, un petit peu moins, je crois. France,
oui, en moyenne, sur les 10 dernières années, on tourne à peu près sur ce chiffre de 80 000 acquisitions par an.
Nadia, à quoi on est attentif lorsqu'on ouvre un dossier pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avant d'attaquer même le dossier administratif que tu décrivais? Est-ce qu'il y a quelque chose?
On s'assure que la personne remplisse les conditions de recevabilité. En fait,
de leur demande. Comme tout dossier administratif.
Voilà. Et ensuite, c'est surtout
ce parti.
Et ensuite, c'est parti. On lance les enquêtes. Il y a des enquêtes quand même sur la moralité des candidats.
C'est des enquêtes physiques. On envoie des enquêteurs pour vérifier cette moralité.
On fait des demandes aussi.
On
fait des passages fichiers. Donc, on s'assure que la personne n'ait pas de casier judiciaire. On sollicite les services de sécurité, les services de police. C'est ce qu'on appelle globalement les enquêtes réglementaires, les enquêtes administratives. Et puis ensuite, on s'assure, on prépare le dossier. Et puis quand on perçoit dans le dossier qu'il y a un élément, par exemple un trou dans le parcours. Mmh. Hein, pendant quelques années, la personne n'a pas travaillé, elle s'est pas formée. Donc c'est des éléments qu'on va noter, qu'on va retenir en fait pour questionner le postulant.
C'est solitaire, on en parle de tout ça avec ses collègues?
On en parle avant et on en parle après aussi. On échange énormément. D'ailleurs, nous, sur la plateforme, on échange quotidiennement. Alors, je suis référente entretien d'assimilation. Donc, à ce titre-là, je suis amenée à, éventuellement, si un de mes collègues le sollicite, aller sur un entretien avec lui, s'il estime que c'est un peu délicat et qu'on a des éléments dans l'enquête de police qui sont susceptibles de... qui nous alertent. Donc, on échange avant l'entretien et on échange après, quand on a des doutes.
Et alors cet entretien, comment il se passe? La personne, elle est convoquée, elle se présente, et vous aviez bien travaillé en amont pour savoir ce que vous allez poser comme question.
On n'a pas de questions, on a des questions sur les grandes lignes en fait, on n'a pas de questions, c'est pas un examen en fait, c'est pas un examen de connaissances. C'est un entretien, c'est un échange. On pose le cadre, dès qu'on reçoit les personnes, on va poser le cadre, donc on l'accueille, on est toujours dans une attitude, une posture bienveillante vis-à-vis des personnes. On leur dit qu'au cours de l'entretien, on va essayer d'apprécier leur connaissance des droits, des devoirs qui sont conférés aux citoyens, puisqu'ils veulent devenir citoyens français. On s'assure qu'ils connaissent en fait ses droits et ses devoirs, l'histoire du pays, la société. Et puis si surtout, alors c'est vraiment le point central, si les personnes adhèrent aux valeurs et aux principes de la République. Ça c'est vraiment fondamental dans leur vie de tous les jours. Donc on s'appuie énormément sur les enquêtes de police. Ça c'est vraiment important.
C'est le respect des femmes par exemple, la polygamie, ce genre de choses?
C'est exactement, c'est le respect du principe égalité homme-femme, de la mixité, la liberté d'expression, la liberté de croyance, et puis tout ça sous-tendu par le principe de la laïcité, bien sûr, qui est fondamental.
C'est vrai que c'est pas forcément facile à expliquer en plus la laïcité.
On va pas tant leur demander de nous expliquer ce que c'est, on va essayer de déceler dans leur quotidien, dans leur façon de vivre, s'ils y adhèrent en fait, s'ils y adhèrent par leur comportement, par leur attitude, mais il suffit pas de savoir ce qu'est la laïcité pour y adhérer.
Ça doit être stressant des fois pour vous parce qu'il faut pas se tromper.
Non.
Et en même temps, vous tenez entre vos mains l'avenir d'une personne qui a envie d'être française.
Tout à fait. Alors, je ne placerai pas cet enjeu à ce niveau-là. Pour moi, ce sont des personnes qui sont résidentes en France au moment où elles font leur demande. Elles n'ont pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu majeur, si ce n'est pour les personnes qui veulent accéder à la fonction publique, qui ont besoin d'être français. Il n'y a pas de... ils sont pas... On va pas les renvoyer chez eux. Ils ne vont pas avoir de QTF, d'obligation de quitter le territoire français. Donc, il n'y a pas... Pour moi, je suis assez sereine de ce côté-là. C'est pour ça que...
Un aboutissement.
C'est un aboutissement. Mmh. D'ailleurs, au moment de l'échange avec les demandeurs, avec les postulants, des fois, quand on perçoit que l'adhésion n'est pas vraiment complète, on leur demande... ce que ça changerait pour eux de devenir français dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce que ça apporterait de plus. Et c'est vrai que parfois on décèle des questions, enfin, on décèle une attitude un peu opportuniste. Il n'y a pas toujours un engouement, une volonté vraiment très forte de rejoindre la communauté nationale.
Comment on encadre tout ça, Frédéric, au niveau national? Comment on fait des grilles d'évaluation? Comment on arrive à finalement à encadrer aussi, parce que c'est en lien avec l'évolution de la société?
Oui, alors on a, Nadia l'évoquait tout à l'heure, déjà des critères de recevabilité qui sont fixés par le Code civil. Donc
notre socle de base, c'est fixe.
Mais l'accès à la nationalité, ça n'est pas un droit. Le Code civil parle de faveur. Il y a un large pouvoir d'opportunité de l'administration. Et donc, on définit, un cadre général, des orientations générales pour qu'il y ait une forme d'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national et d'harmonisation des pratiques.
Et ces valeurs de la République que dépeint très bien Nadia, c'est une attention particulière?
Alors c'est une attention particulière, c'est le moment fort de cet entretien. Là on est au cœur du régalien à travers, ça ouvre l'accès à la citoyenneté française, à la citoyenneté européenne, donc c'est quelque chose d'important et donc on doit être très vigilant sur à la fois les critères de moralité des postulants et puis également le respect des principes et valeurs de la République.
Est-ce que parmi les postulants, ils sont nombreux d'ailleurs à vous parler d'Europe ? Est-ce que pour eux, devenir citoyen français, c'est aussi devenir citoyen européen ?
C'est quelque chose qui est important pour eux. On le voit souvent pour les plus jeunes. On a une frange notamment d'étudiants, ingénieurs ou doctorants qui sont amenés aussi à voyager souvent. Et cette dimension-là, pour ce public-là, est importante.
Est-ce que vous, qui avez, comme vous le disiez tous les deux, une longue carrière un peu partout en France, est-ce que... toi Nadia et toi Frédéric, vous avez vu une évolution ces dernières années sur ces questions-là parmi les postulants? Ou est-ce que c'est finalement une population qui suit l'évolution de la société mais sans changer drastiquement?
En fait, je pense qu'on retrouve chez nous en bout de chaîne l'évolution des flux migratoires au cours du temps. Donc là, en fonction des origines des primo-arrivants, des réfugiés, eh bien quelques années après, ça se retrouve pour nous au niveau des naturalisations. C'est vraiment une politique publique qui est en prise avec, la diplomatie, les évolutions géostratégiques à travers les flux de public que l'on reçoit.
C'est intéressant. Est-ce que d'ailleurs tu as un souvenir ces dernières années qui est plus marquant qu'un autre? Ou est-ce que d'ailleurs vous restez en lien après avec les personnes naturalisées? Vous les revoyez au moment de la cérémonie de naturalisation d'ailleurs?
Oui, les nouveaux Français, on les reçoit donc au moment d'une cérémonie.
Alors comment ça se passe cette cérémonie? C'est intéressant.
Alors c'est très émouvant en fait. C'est vraiment des moments très émouvants où la personne, où on ressent toute la joie en fait du récipiendaire, et puis c'est un moment de d'aboutissement pour eux. Donc
c'est solennel, il y a un discours,
c'est solennel, il y a un représentant du corps préfectoral qui généralement remet officiellement les décrets de naturalisation, et puis ensuite on a un petit buffet pour pouvoir échanger, et puis un moment de convivialité.
On peut venir avec ses proches ou c'est
solitaire? On peut venir avec ses proches également, oui. Alors ça a été un peu pendant la pandémie, alors juste après la crise sanitaire, on a été un peu, c'était des cérémonies restreintes, mais maintenant ça reprend.
Et donc vous revoyez à ce moment-là les personnes que vous aviez rencontrées au cours de l'entretien?
Oui, on revoit et puis on reconnaît, en fait, on se souvient des dossiers, si on est un peu physionomiste, on se souvient de leur parcours, et c'est vrai que c'est émouvant parce qu'on se dit que maintenant ils sont français comme nous, et ils ont rejoint la communauté nationale, et c'est vraiment un moment de joie, mais très émouvant. Beaucoup de gens pleurent à ce moment-là.
C'est ce que vous préférez dans votre métier, ces cérémonies?
Pas seulement, non. Pour moi, l'entretien réglementaire est vraiment un moment privilégié. C'est vraiment un moment, c'est un partage, c'est un échange, et c'est on a des morceaux de vie, quoi. C'est on travaille avec de l'humain. C'est très intéressant.
Et vous, Frédéric, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier?
Alors effectivement, je rejoins ma collègue sur vraiment la grande puissance émotionnelle de ces cérémonies. Pourtant, en tant que sous-préfet, on en fait un certain nombre, mais celles-là, elles ont vraiment une saveur particulière. Quand on se projette un peu en arrière aussi, c'est aussi une manière de revoir un petit peu le rôle des immigrés hein, dans la nation. On l'a vu historiquement. Mais pour prendre un exemple de pleine actualité, on évoquait le Covid. Il y avait un dispositif particulier de naturalisation pour ce qu'on appelait les gens qui travaillaient en première ligne. Et là, on a aussi, à travers ce dispositif, découvert qu'un certain nombre d'entre eux venaient souvent de loin, que ce soit dans le domaine médical, chez les caissiers, les caissières, les livreurs ou autres agents de sécurité. Donc c'est vrai que ce sont des moments émouvants et importants. Moi, j'ai en mémoire le parcours d'une postulante qui était arrivée jeune lycéenne pour se faire soigner malheureusement d'une grave maladie et qui, quelques années après, était revenue avec son papa qui l'avait fait venir en France. Elle avait poursuivi ses études, obtenu son diplôme d'infirmière et elle venait d'accéder à la nationalité. Elle allait intégrer un grand hôpital lyonnais. Donc voilà, c'est des moments qu'on n'oublie pas.
Vous avez des histoires comme ça aussi à Montpellier, j'imagine.
Alors, bien sûr, j'ai le souvenir d'un jeune qui avait été confié à l'ASE.
Donc l'aide sociale à l'enfance.
L'aide sociale à l'enfance. Et qui avait
réussi. Qui était tout seul, j'imagine,
sans parents. Sans parents, donc qui est orphelin. Et qui courait, en fait, qui tous les matins partait courir et qui a été aperçu par un couple du côté de Perpignan, qui le voyait courir tous les jours et le couple lui a proposé d'intégrer leur club d'athlétisme. Et il est devenu, et ensuite il a été, donc il était tellement, tellement fort, tellement bon en athlétisme qu'il a demandé sa naturalisation et il était pressenti pour participer aux Jeux Olympiques de 2024.
Wow.
Voilà, et représenter la France.
Sous la bannière de la France.
Voilà. Mmh. Donc c'est aussi des parcours mais de personnes méritantes, en fait.
Mmh, tout simplement. Est-ce que vous recrutez beaucoup au niveau national, ou à Montpellier d'ailleurs, pour ces plateformes ? Il y en a 41, je crois, au total ?
Alors effectivement, il y a 41 plateformes. Ça représente un peu plus de 450 agents, auxquels il faut ajouter 110 agents au niveau de l'administration centrale et de ma sous-direction. Et effectivement, on recrute régulièrement. Il y a en plateforme, il y a un turnover d'à peu près 20% des effectifs. Donc, d'ailleurs, j'espère que ce podcast suscitera des vocations, parce que ce qu'on constate, c'est que souvent les agents qui goûtent à cette politique publique, ils restent longtemps et apprécient ce métier.
Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui commencent à s'y intéresser, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui des questions migratoires dans la société? Qu'est-ce que vous leur diriez pour vous rejoindre, tous les deux?
Au sein de l'administration, actuellement, où on est beaucoup sur des formes de dématérialisées, d'échanges avec les usagers, où ça reste quand même des missions où on est en contact avec le public et voilà, le contact humain.
Et ça change la donne?
Ça change énormément la donne, oui, tout à fait.
Et toi, Frédéric, tu dirais quoi ? Des personnes de tout âge, d'ailleurs, qui sont déjà peut-être au ministère de l'Intérieur, mais qui se diraient « Ah, j'y avais pas pensé, pourquoi pas ?»
Non, c'est une nouvelle corde à mettre à son arc, une autre vision sur les sujets liés aux étrangers, et puis avec des qualités d'empathie à développer qui sont intéressantes dans nos métiers au quotidien.
C'est presque un métier social ?
Il y a une dimension humaine, et puis on a beaucoup parlé de l'entretien, mais c'est aussi des techniques à développer. Il faut rentrer dans le quotidien des gens, les amener à se livrer. Donc c'est pas des techniques d'enquête ou d'interrogatoire, c'est une autre forme, mais c'est intéressant aussi pour la suite.
C'est un métier finalement très humain, mais aussi très strict et très réglementaire, presque une enquête de police presque.
Effectivement, il combine à la fois cette dimension réglementaire, cette dimension humaine, et j'en ajouterai une troisième, puisqu'on est, on est en pleine transformation numérique, puisqu'on dématérialise nos procédures du dépôt jusqu'à la sortie du décret de naturalisation, donc toute une conduite du changement importante aussi, et une révision de nos process avec cette transformation numérique.
Et notamment avec la détection de la fraude. qui est très importante, puisque effectivement les personnes déposent des dossiers peuvent essayer alors d'accéder plus facilement à la nationalité, par exemple, notamment quand ils n'ont pas le niveau de langue requis. Ça peut être une porte ouverte en fait aux faux documents, faux diplômes, faux. Donc voilà, on a.
Et donc là aussi, on a des correspondants fraude, on a des formations spécifiques à la fois sur la fraude documentaire, mais également sur la fraude dématérialisée.
Réglementaire et humain. En tout cas, bravo à tous les deux et par votre intermédiaire à aller au plus de 500 personnels, donc si je fais bien l'addition, qui travaillent sur ces questions. Je pense qu'on comprend un petit peu plus ce que c'est le métier derrière ces plateformes, derrière ces entretiens réglementaires dont on a un peu parlé. En tout cas, ces sujets migratoires nous intéressent beaucoup au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer parce qu'ils intéressent la société, parce que c'est le quotidien de nombre de nos concitoyens. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille un livre magnifique qu'on a lu récemment ici au service communication. Il s'appelle « Ils sont devenus français dans le secret des archives ». Alors, ces deux journalistes qui ont écrit ce livre, Madame Monin et Madame Buis, c'est les parcours de différentes personnes françaises naturalisées. Alors des fois, ces journalistes ont un peu la dent dure contre l'administration, il faut le dire, mais c'est très intéressant et ça va rechercher au fin fond de nos archives. Donc je vous le conseille en livre de chevet. Et une fois que vous aurez lu ce magnifique livre, ou même tout en le lisant, vous pouvez aussi venir en préfecture sur les cérémonies de naturalisation. Je ne sais pas si vous le savez, mais elles sont ouvertes au public, au grand public, à tout public. Donc si vous voulez voir les nouveaux Français le devenir, recevoir leur décret des mains du préfet, si vous voulez voir leur joie, si vous voulez échanger avec eux sur leur parcours de vie, vous êtes les bienvenus en préfecture. Les portes sont ouvertes de manière régulière pour ces cérémonies. En tout cas, on vous y attend. Un grand merci encore à tous les deux. Et puis j'espère que vous aurez plein de candidats sur les plateformes et sur ces questions.
Merci.
Merci.
À bientôt.